Chapitre 3. Un adieu. Camilla, renonçant pour la première fois à tout espoir de bonheur, retourna fort tard chez Mistress Burlington. En déposant sur sa toilette les ornements de sa parure, elle considérait avec douleur dans son miroir la dispendieuse élégance d'un habit dont son espoir déçu lui faisait plus vivement sentir l'extravagance. Il s'ensuivit une foule de réflexions dont son esprit était toujours capable, mais que sa gaieté repoussait ordinairement. « Comment ai-je pu penser, se disait-elle, qu'Edgar attendrait, pour décider de sa conduite, l'événement incertain d'une rencontre dans un bal ? Et s'il avait eu le moindre désir d'une entrevue, n'avait-il pas tous les droits pour me la demander ? Il prétend que je l'ai congédié, mais je n'ai point proposé notre séparation d'après des doutes ou des mécontentements qui me fussent personnels. J'ai dû m'apercevoir qu'il la désirait. Il me quittera sans murmurer. Je ne me plaindrai pas non plus de son abandon. En s'éloignant de moi, il fait des vœux pour mon bonheur. Edgar, j'en fais aussi pour le vôtre. L'imprudente Camilla n'était pas digne de vous. » L'examen plus détaillé de son habit de bal ne contribua point à rétablir la sérénité dans son âme. Sa robe était partout bordée de la plus belle dentelle de Valenciennes, ses souliers, sa ceinture et ses gants étaient richement brodés en paillettes d'argent et garnis d'une frange pareille. Ses boucles d'oreilles, son collier, étaient composés de grains d'or et de grains lilas mélangés. Son éventail, les bords de ses souliers, étaient garnis richement. Ses plumes et son bouquet de lilas artificiels étaient parsemés de petits grains blancs pour produire l'effet du brillant de la rosée. Elle ne savait point évaluer le prix de tout cet attirail, mais elle ne doutait pas qu'il ne dût être fort cher. Mrs. Mitin, qui s'était chargée de cette acquisition, avait pris pour guide non seulement la forme, mais le prix de l'habit de Mrs. Burlington. Camilla ne pouvait espérer de payer cette somme que par le sacrifice de toute sa pension de l'année suivante, en l'amassant et en s'abstenant de toute autre dépense jusqu'à ce qu'elle fût acquittée. Elle s'occupait de ce triste calcul quand elle reçut la visite de M. Venet, le propriétaire d'Higden. L'examen effrayant de ses dettes ne pouvait pas la faire manquer à son engagement, car la connaissance de son embarras personnel augmentait sa sensibilité pour les peines des autres. Elle apprit de cet homme qu'il était arpenteur et qu'il avait été souvent employé à Clèves par le baronnet Sir Hugh, son oncle. Il accepta sa caution verbale pour les loyers échus et refusa son billet que sa minorité rendait illégal. Il promit de ne point la presser pour le paiement. La famille des Tyrold était trop connue dans le canton pour qu'il eût de l'inquiétude sur sa parole d'honneur. Et d'ailleurs, il connaissait la générosité de son oncle. Lorsque cette affaire fut terminée, elle se hâta d'aller consoler Eugénia. Comme elle descendait, une des servantes vint l'informer qu'elle avait oublié de lui dire que, peu d'instants après sa sortie pour se rendre chez le Lord Perville, un étranger, enveloppé dans son manteau et portant un chapeau rabattu sur sa figure, l'avait demandé, qu'il avait paru fort chagrin de savoir qu'elle était au bal, mais qu'il devait revenir le lendemain sur le soir. Camilla supposa, contre toute probabilité, que cet étranger ne pouvait être qu'Edgar. Elle en avait l'imagination si remplie qu'aucun autre ne pouvait y trouver place. Elle courut, fort agitée, chez sa sœur, en se berçant de toutes les circonstances de ces sortes d'entrevues, dont le commencement, quel qu'il pût être, se terminait toujours par une réconciliation. Eugénia, encore au lit, pleurait et l'embrassa tendrement. « Oh, ma sœur, lui dit-elle, ce n'est pas le regret de ma perte qui fait couler mes larmes, quoiqu'il soit peut-être au-dessus de toute expression. Je pleure, ma chère Camilla, mon propre aveuglement. Comment ai-je pu supposer un moment, un seul moment, que Melmont consentirait sans répugnance à lier son sort au mien pour toujours, qu'il prendrait par choix la difforme Eugénia pour épouse ?»« Oh, ma chère Eugénia, lui dit sa sensible sœur en versant un torrent de larmes. Combien vos avantages sont au-dessus de la fragile beauté. Il est impossible que Eugénia soit connue sans être respectée, sans être chérie. » Elle commençait le triste récit de ses chagrins personnels lorsqu'elle aperçut sur la toilette une lettre cachetée. Molly Mill l'y avait placée, croyant que sa maîtresse dormait encore. Le cachet frappa Camilla. Elle se leva pour le considérer. Et quelle fut son agitation lorsqu'elle vit le chiffre « E.M. » et qu'en tournant la lettre, elle reconnut l'écriture d'Edgar. Son émotion ne lui permit point de parler. Elle tendit la lettre à sa sœur, et voici ce qu'elles lurent ensemble. À Miss Eugenia Tyrold. Il fut un temps où je me flattais de nommer l'estimable Eugenia ma sœur. Cet heureux temps a passé comme un songe, mais la perte d'un titre si doux ne peut pas influer sur les sentiments de mon cœur. Mon amitié fraternelle ne finira qu'avec moi. Elle est fondée sur ma tendresse pour vos vénérables parents et sur mon estime pour vos vertus. Ni le temps ni la rigueur de mon sort ne rompront jamais ces liens indissolubles. « Oh, Edgar !» s'écria Camilla. « Est-il bien vrai que vous partagez ma peine et que vous daignez en faire l'aveu ?»« Ah, mon Eugenia, c'est vous qui dissiperez cette fatale erreur. C'est à vous qu'il s'adresse, c'est vous qui nous rendrez la paix et le bonheur. » L'idée de pouvoir contribuer au bonheur de sa sœur tarit les larmes d'Eugenia. Camilla continua de lire. « Je ne déchirerai point votre cœur généreux par le récit de mes souffrances depuis cette cruelle séparation. Je me sers de ma plume pour vous dire un adieu que je n'aurai pas la force de prononcer, pour vous souhaiter le bonheur que j'ai perdu, pour vous prier d'assurer pour moi toute votre famille de mon respect et de mon attachement inviolable. » Edgar Mandelbert. Les vœux d'Edgar pour le bonheur d'Eugenia renouvelèrent ses larmes. Camilla prit la lettre pour presser ce qu'il disait de ses souffrances sur ses lèvres et sur son cœur. Elle aperçut deux lignes de plus sur le revers de la page. « Je pars à l'instant de Southampton pour l'île de Wight et je profiterai du premier vaisseau destiné pour un des ports du continent. » « Ma chère Eugenia, dit-elle à sa sœur en rougissant et posant la lettre, il vous sauve l'embarras d'une médiation. Il annonce son départ de l'Angleterre. Ce ne peut être que pour éviter l'importunité d'une réponse, et nous n'entreprendrons point très certainement de lui faire violence. » Camilla résolut d'informer, sans délai, son père de cet événement, de le supplier de la rappeler à Essarington, et de ne plus souffrir qu'elle s'absentât de la seule maison où sa tranquillité était assurée. Elle se sentit même le courage de déclarer ses dettes. Elle espérait pouvoir réparer désormais ses imprudences par la persévérance de son économie. Camilla pria sa sœur de ne point répondre au billet d'Edgar. Cependant, le courage qu'elle affectait contre ses cruels adieux allait se démentir quand on l'informa que l'homme au chapeau rabattu l'attendait et désirait vivement d'avoir avec elle un instant de conversation. Certaine qu'il n'était pas celui qu'elle souhaitait, elle se rendit à sa sollicitation par pure complaisance. Edgar était en effet parti. Accablé de sa douleur, il n'avait pas le courage de penser à l'avenir. Camilla ne lui semblait plus mériter l'estime et la confiance illimitée qu'il voulait avoir pour son épouse. « Oh, docteur Marchmont, s'écriait-il, vous m'avez mieux jugé que la violence de ma passion ne me permettait de me juger moi-même. Le malheur eût été mon partage. Je ne puis être heureux qu'avec un caractère égal, aussi simple dans le monde que dans la retraite, aussi dégagé d'affectation dans une assemblée que dans une chaumière. Sans cette précieuse ingénuité, la réunion de tous les autres avantages est insuffisante. » Quoiqu'Edgar eût d'abord projeté de ne point partir sans voir M. Tyrold, sans converser avec lui sur les dangers auxquels il croyait sa fille exposée, il se contenta d'écrire quelques lignes à cet homme respectable. Il en chargea le docteur Marchmont, ainsi que de l'explication que M. Tyrold pourrait demander, avec la clause toutefois de ne rien dire qui pût causer un seul instant de déplaisir à Camilla. Le docteur Marchmont voulut l'accompagner jusqu'à l'île de Wight et prit l'administration de ses biens durant son absence. Lorsqu'on vint les avertir de se rendre à bord, Edgar pâlit, sa respiration entrecoupée ressemblait à des soupirs. Il resta quelques instants la main appliquée sur ses yeux dans une agitation violente. Enfin, prenant le bras du docteur, il gagna le port en jetant sans cesse des regards sur la ville. « Je sens, mon cher Mandelbert, lui dit le docteur, tout le malheur de votre situation. Il est cruel qu'avec des défauts dont les suites peuvent devenir si funestes, cette jeune personne ait tant de qualités aimables. Considérez cependant combien ces défauts doivent être dominants, puisque des parents comme les siens n'ont pu réussir à faire pencher la balance du bon côté. » Un profond soupir fut la réponse d'Edgar. Il tint ses regards, toujours fixés vers le même point, jusqu'au moment où le rivage, la ville et les clochers de Southampton disparurent.